Nous étions quittés la semaine passée en prenant conscience que l'on pouvait tout à fait, et c'est peut-être pas très rassurant, on pouvait tout à fait lire la Bible sans être lavé par la parole, sans être transformé. Jésus en parle dans l'Évangile. C'est une des problématiques, un des thèmes qu'il a abordé. On va prendre un premier texte, il se trouve dans l'Évangile de Jean. C'est une rencontre, encore une fois, de Jésus avec les autorités religieuses de son époque. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Une sorte de paradoxe. Jésus met les pharisiens en particulier devant ce paradoxe. Vous lisez la Bible, les textes, pour avoir la vie éternelle, la vie qui ne se trouve qu'en Dieu, et vous ne m'y voyez pas. Vous ne reconnaissez pas que la vie, ce dont parlent vos textes, c'est de moi. Le problème, et on avait commencé à l'aborder la semaine passée, le problème des responsables religieux de l'époque de Jésus, c'est qu'ils pensaient que leur grande connaissance de l'Écriture, parce que la connaissance, ils l'ont, était la preuve de leur grandeur spirituelle. Pour eux, connaissance et croissance, profondeur spirituelle, c'était des synonymes, c'était la même chose. Par contre, à l'analyse, est-ce que Jésus va le reprocher tout son ministère durant? Les textes qu'il connaissait par cœur ou qu'il connaissait si bien n'avaient jamais permis, il n'avait jamais permis aux enseignants de la Bible, par exemple sur l'humilité, de purifier leur cœur de l'orgueil, ni jamais permis aux enseignements bibliques sur l'amour de les aider à ne plus juger les autres. Bon, on flingue les pharisiens, on a toujours le même problème dans la plupart des églises aujourd'hui, hein, malheureusement. Donc c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas accepté la vérité enseignée par Jésus, la vérité de son message. Notre désir profond doit être de lire la parole de Dieu afin de changer, d'être ouvert à ce que Dieu dit et être prêt à faire ce qu'il dit. Alors, la semaine passée, on avait commencé avec deux premiers développements, donc deux conseils pratiques que je vous ai donnés. Donc, demander à Dieu de vous rencontrer dans l'Écriture, de lire la Bible dans un esprit d'ouverture. Et aujourd'hui, on va s'attaquer, entre autres, sur cette dimension. Il faut méditer. On ne parle pas de lire et étudier la Bible. Ici, on parle de méditer sur un passage plutôt court. Alors, je le répète, il est bien entendu important de devenir familier avec l'entièreté de la révélation biblique, bien sûr. Et si un jour vous voulez étudier un thème dans la Bible, vous allez vous rendre compte que vous allez vous retrouver dans des centaines parfois de passages différents. Et si vous avez le temps de le faire, je vous encourage à le faire. Par contre, quand on parle de méditation de la parole, en vue d'être transformé, nous devons aller doucement, prendre le temps. Et nous concentrer. Voici ce qu'en dit Madame Guyon. Je suis content que c'était son surnom, parce qu'en fait, c'est Jeanne-Marie Bouvier de la Motte. Oui, ça ne s'invente pas. Une mystique française du XVIIe. Voilà ce qu'elle dit. Si vous lisez vite, il n'y a pas de la Bible, bien sûr, vous en retirerez un petit bénéfice. Vous serez comme une abeille qui effleure la surface d'une fleur. Par contre, avec cette nouvelle manière de lire, donc elle parle de la méditation, vous serez semblable à une abeille qui pénètre les profondeurs de la fleur. Vous plongerez profondément pour en retirer tout le nectar. Pour s'immerger dans un court passage de l'Écriture, quelques versets par exemple, il faut commencer par lire doucement. Donc les speedés, ils vont avoir un problème avec ça. Et pourtant, il faudra apprendre. Il faut apprendre à lire doucement. En fait, comme si vous lisiez une lettre d'amour. En général, vous avez peut-être déjà reçu des lettres d'amour. Non ? C'est vraiment dommage pour vous. Bon, si vous voulez, je peux vous prêter celle que moi j'ai reçue. J'en ai des caisses à chaussures remplies, moi. C'était avant, je vous rassure. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Simplement parce que quand on lit une lettre d'amour, tous les mots comptent. On fait attention à tous les mots. On prend le temps de s'imprégner de tous les mots. Il faut permettre à ces mots de pénétrer notre cœur. Dans le contexte de la méditation, notre Père veut toujours nous parler. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Il veut en permanence nous parler. La question qui résonne donc dans les coulisses de ce genre de lecture est toute simple. Seigneur, que veux-tu me dire alors que je vais lire ce passage, ce texte, ce verset ? Si par exemple vous lisez un récit, dans la Bible. Utilisez votre imagination pour visualiser l'endroit qui est décrit. C'est un truc qu'on ne fait jamais. Les descriptions sont là pour nous décrire quelque chose, justement, pour nous aider à visualiser ce qui se passe. Et puis, le lieu donc où se déroule l'action décrite par le texte. Il y a un exemple qui m'est venu. Vous pouvez, et c'est probablement le cas de la plupart d'entre vous, vous pouvez avoir lu 1000 fois la parabole du fils prodigue et ne jamais avoir pris le temps de tenter de vous imaginer ce que ça a dû faire au fils prodigue de voir son père, alors qu'il se disait qu'il allait virer à coups de pompe dans les lattes, de voir son père arriver vers lui en courant. Le contact des bras de son père quand il l'a accueilli, quand il l'a pris dans ses bras. C'est important parce que c'est exactement le genre de dimension, le genre de relation que notre père veut avec nous, en particulier quand on en fait l'andouille, ce qui est quand même quasi le cas tous les jours, ne fût-ce qu'en pensée. Et puis, mettez-vous peut-être aussi dans la même parabole à la place du père qui espère son fils, le retour de son fils depuis, le texte ne nous le dit pas, mais imaginons, depuis des années, et qui le voit enfin arriver et qui commence à courir vers lui. Ou alors, plus bêtement encore, hein, au moment de la multiplication des pains, vous lisez ça dans l'évangile de Jean, demandez-vous quel goût pouvait bien avoir ce pain, en fait. Ou quel goût devait avoir le poisson. Vous avez dit, il est complètement cinglé. Je vous assure que ça aide. Hein. Ça aide à se voir soi-même aussi, comme participant au texte que vous lisez. Alors, maintenant, j'aimerais dire quelque chose, un des trucs que j'aimerais que vous reteniez, si c'est possible. Hein. Il y a quelque chose de fondamental concernant la méditation de la Bible. Suivant la façon dont vous fonctionnez, vous devrez bouger certaines choses pour profiter pleinement de ce genre de lecture. Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui sont câblées, qui sont comme ça, de telle manière qu'elles auront du mal à se tenir à ce programme de lecture approfondie et méditative. Elles seront poussées, par exemple, par tous les programmes de lecture de la Bible en un an. Hein. Il y a des programmes, ça, vous devez lire la Bible en un an. Autrement dit, vous allez vous avaler 4 ou 5 ou 6 chapitres par jour. Et finalement, vous allez vous retrouver à avaler les chapitres pour avaler les chapitres, et vous ne retirez rien, mais rien du tout, hein, de ce genre de lecture. Dans ce scénario, vous allez lire les psaumes, mais avec l'objectif de les avaler, d'avaler les 150 psaumes en 150 jours. Un par jour, il faut absolument que je les rentre. Alors bon courage quand vous allez arriver au psaume 119. Hein. 176 versets, qui ne parlent d'ailleurs que de la parole de Dieu. Donc si vous êtes du type compétiteur, premier de classe, si ça existe, hein, ou expéditif, vous risquez de tomber dans ce genre de panneau. Donc il va falloir apprendre à freiner, à prendre le temps. Il est d'ailleurs symptomatique que le plus long psaume de la Bible, donc le psaume 119 dont je viens de vous parler, se termine par ce verset. Voilà le verset 176. C'est un psaume qui ne parle que de la parole de Dieu. « Je suis errant comme une brebis perdue, viens à la recherche de ton serviteur. » Ça vous trouve pas bizarre. Vous trouvez pas ça bizarre que ce psaume qui ne parle que du rapport de l'homme à la parole de Dieu se termine par ce genre de verset. Ça serait quand même comique d'admettre que l'on peut se perdre dans la lecture de la Bible, comme d'ailleurs dans n'importe quoi d'autre, qu'on peut s'y égarer. La règle d'or de la lecture de la Bible est donc celle-ci. Notre objectif n'est pas de traverser l'Écriture, mais bien que l'Écriture nous traverse. Nous ne devons pas traverser l'Écriture, c'est l'Écriture qui doit nous traverser. Que cette Écriture finisse par nous habiter en permanence, qu'elle renouvelle notre façon de voir le monde, les hommes, et Dieu, peut-être même surtout Dieu. Trop souvent dans les églises, en particulier protestantes depuis la Réforme, puisqu'on avait tout centré sur l'Écriture et je pense qu'on avait raison de le faire, on a souvent l'impression que le seul chemin vers la transformation, c'est la connaissance. Au plus t'en sais, au plus t'es une bête spirituelle. Donc derrière cette croyance s'en cache une autre. La maturité spirituelle augmente avec le degré de connaissance. Un pasteur raconte qu'un jour, l'un de ses amis qui fréquentait son église et qui n'était pas chrétien, cet ami fréquentait son église depuis peu, et un jour, après un culte, il lui a posé cette question. Si je comprends bien, l'une des raisons pour laquelle les gens consacrent du temps à écouter les enseignements dans l'église, c'est afin de mieux comprendre la Bible. Et le pasteur lui a répondu, « Ouais, tu as tout compris, c'est bien ça. » Ok, il dit maintenant j'ai une deuxième question. Et la raison pour laquelle les gens doivent mieux connaître la Bible, c'est quoi ? Ok, tu enseignes pour qu'ils connaissent mieux la Bible, mais pourquoi doivent-ils mieux connaître la Bible? Je vais le dire autrement, parce que c'est une bonne question, je trouve, qu'il a posée ce monsieur. Si quelqu'un qui connaît la Bible, 10 fois plus la Bible qu'un, par exemple, un non-chrétien, on pourrait quand même concevoir qu'un chrétien connaisse 10 fois plus la Bible qu'un non-chrétien, est-ce qu'il aime 10 fois plus? Est-ce qu'il est 10 fois plus bienveillant, plus miséricordieux, plus compatissant? Donc c'est une très bonne question. Quel est le résultat de ma lecture, de mon étude et surtout de ma méditation de la Bible quant à ma vie réelle? La connaissance biblique est un bien inestimable et indispensable. Pensez bien qu'autrement, moi j'arrêterais. Mais la connaissance en elle-même ne produit pas la transformation spirituelle. Elle peut même, et c'est Paul qui le dit, avoir l'effet contraire, avoir un effet catastrophique. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Donc, quand Paul écrit aux chrétiens de Rome d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, il parlait de bien plus que de simplement récolter de l'information. L'intelligence à laquelle il fait référence englobe en fait un vaste panel de perceptions, de compréhensions, de valeurs et de sentiments qui déterminent notre façon de vivre. L'objectif du temps que l'on passe dans la méditation de l'Écriture, c'est d'être transformé afin que cette transformation se voie dans notre vie de tous les jours. Calvin disait ceci en commentant ce verset de Paul en Romains 12. Ça signifie que nous penserons, parlerons, méditerons et ferons toutes choses pour la gloire de Dieu. Vous voulez savoir, d'après Calvin, si vous êtes transformé par la parole, demandez-vous si toutes vos pensées, toutes vos actions et tout ce que vous faites en général, vous le faites avec un seul objectif, la gloire de Dieu. C'est un peu radical, mais c'est Calvin. Mais je pense qu'il a raison. Et c'est un objectif à atteindre, bien sûr, le chemin. Il y a un chemin pour arriver à ça. Donc, pour le dire autrement, tant que quoi que ce soit dans notre vie, en termes de perception, d'investissement, de réflexion, de pensée, de motivation, est autre chose que rendre gloire à Dieu, la transformation n'est pas opérée. Il y a une raison, vous savez, pour laquelle on a du mal à se transformer. C'est parce que dans ce même verset, ce même chapitre 12, pardon, de l'Épître aux Romains, avant le verset 2, il y a un scoop, il y a le verset 1. Vous attendiez pas celle-là. Et que dit le verset 1 ? Que ça arrive lorsque nous offrons nos corps en sacrifice vivant. Autrement dit, lire la Bible simplement, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Il faut que toute notre existence soit consacrée, dédicacée à Dieu. Autrement dit, pratiquement, lorsque nous organisons nos vies autour des disciplines spirituelles que Dieu nous a laissées, tous ces outils, il nous les a laissés afin que nous puissions grandir en lui. Autrement dit, lorsque nous décidons, chemin faisant, de devenir un disciple. La méditation faisant partie donc de la vie du disciple. Ça va, on passe au point suivant. Un des objectifs de la méditation de la Bible, c'est d'emmener une pensée, un verset avec vous tous les jours, ou même peut-être pendant plusieurs jours. Le psaume verset 1, le tout premier psaume de la Bible dit « L'homme heureux est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Alors je rappelle quand même qu'au moment où David écrit ce psaume, on est en l'an 1000 avant la naissance de Jésus, c'est il y a 3000 ans. La nuit, méditer la nuit, il y a un problème, ils n'ont pas l'électricité. Et à la bougie, ça peut être vachement fatigant. Ce que David nous dit ici, c'est simplement qu'il emporte sa méditation avec lui dans son lit. Ce n'est pas le livre qu'il prend avec lui, ce n'est pas les parchemins qu'il prend avec lui. C'est ce qu'il a médité et qu'il emporte dans son cœur avec lui, y compris la nuit. Et parfois, à mon avis, cette méditation l'a empêché de dormir. Ça, c'est un scoop. De temps en temps, c'est Dieu qui vous empêche de dormir. On ne peut pas, et je répète, c'est important, on ne peut pas méditer rapidement. Il va falloir organiser du temps pour ça. Il n'existe pas de fast meditation, comme il existe des fast food, ça n'existe pas. Ce serait sympa, hein, ça n'existe pas. Mais si l'on poussait la comparaison jusqu'au bout, les fast meditations auraient sur notre âme les mêmes effets que les fast food, en fait. Sur notre santé physique, obésité plutôt que croissance, alourdissement de notre être, plutôt qu'élévation de l'âme, manque d'éléments nécessaires à la croissance et à la vie. La méditation est un processus de maturation et celui-ci ne peut donc être que lent. C'est comme quand vous digérez, ça prend du temps. C'est un texte que je prends toujours dans le psaume numéro 1. « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit jamais. » Pourquoi croyez-vous que j'ai encore des cheveux ? La méditation est un processus lent par lequel les racines, je conserve l'image de l'arbre, tirent l'humidité de la rivière, apportant croissance et fécondité à un bel et grand arbre. Vous êtes cet arbre. Pour l'anecdote, rien que dans l'Ancien Testament, il y a plus de 50 passages où on utilise le terme méditer. Plus de 50. Est-ce que ce serait important ? Mais ça s'est perdu, mes amis, parce que ça nécessite du temps. Et c'est ça notre problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est fait pour que nous ne prenions plus le temps, ou alors qu'on passe du temps dans des âneries, ça c'est sûr. Mais on ne prend plus le temps. On va s'arrêter, je vous ai dit que je serai un peu plus technique aujourd'hui, on va s'arrêter maintenant sur le verbe méditer. Le verbe hébreu, agathe, ou grec, melatao, que nous traduisons donc par méditer, est un verbe qui décrit, et c'est important, un bruit léger, comme un murmure, égal et continue, qui désigne plus précisément le bruit que fait la colombe quand elle roucoule. Et 20 ans de méditation, hein. Vous voyez comme je roucoule ? Un exemple nous est donné en Ésaïe 38, je vous le lis. « Je poussais des petits cris, telle une hirondelle en train de voltiger. Je murmurais ou roucoulais, c'est le verbe hébreu agathe, comme une colombe. » On traduit parfois méditer par murmurer, mais il faut en tout cas rapprocher ce murmure du roucoulement de la colombe. Mais ça donne une terrible indication, ça. Quand on fait une étude du verbe méditer en rapport avec l'homme, on oublie la colombe deux secondes, on prend méditer en rapport avec l'homme, il a comme sujet des mots qui nous éclairent, me semble-t-il, sur ce qu'est la méditation. C'est ainsi que la langue médite, il y a toutes des références bibliques, vous irez voir les notes, hein. Ou le gosier médite, ou le palais, voilà. Médite, et plus globalement donc, la bouche sont le sujet de ce verbe. C'est intéressant ça quand même. Donc ça veut dire que la langue médite, le gosier médite, le palais et la bouche également. Autrement dit, tout ce qui est nécessaire à la parole, le fait de parler. Ça signifie donc que c'est avant tout la bouche qui médite, en faisant un bruit léger, si léger qu'il ne s'adresse qu'à celui qui médite, à savoir à moi-même. En fait, celui qui médite dit avec sa bouche ce que ses yeux lisent. Il le dit à ses oreilles dans une activité qui veut unir tout son être. Je murmure le texte et cette parole me revient. D'accord ? Je lis le texte, je dis le texte. J'entends le texte. Et cette activité va, même si on ne s'en rend pas toujours compte, va unir mon être. Donc dans la méditation, en roucoulant la parole de Dieu comme dans un murmure, je me rends compte que je dis avec ma propre bouche ce qui vient de la bouche de Dieu. À savoir sa parole. Je suis à l'écoute de la parole de Dieu et c'est moi qui prononce la parole qu'il est en train de me dire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Non ? On va peut-être devoir faire une retraite de 6 mois hein, pour que hein, ça soit peut-être nécessaire. Vous n'avez rien contre les monastères, non ? Ni les robes de bure, les capuchons ? Non, ça va ? Tout ça signifie en fait, mes amis, que vous vous trouvez à ce moment-là, quelque part, avec Dieu et en Dieu. L'homme et Dieu sont alors si proches que leurs bouches se confondent, la mienne et la sienne. À force de redire la même parole encore et encore, de me la murmurer, Nous finissons par en être imprégnés. Elle finit par descendre, par m'habiter, et elle m'entraîne à la vivre, à devenir en quelque sorte l'incarnation de cette parole. Elle n'est plus seulement une parole, elle devient quelque chose qui vit en moi et qui va transcender ce que je suis et déborder vers les autres. On pourrait donc aller jusqu'à dire, je pense que c'est ce que la Bible nous pousse à déduire, c'est que méditer, c'est ruminer la parole. Donc arrêtez de vous foutre de la gueule des vaches quand vous voyez une. Parce que je pense que les vaches ont quelque chose à nous apprendre. Parce qu'elles passent leur journée à ruminer. Et si ça vous étonne ce que je viens de vous dire, d'essayer de tenter de vous expliquer, dites-vous qu'on rumine bien d'autres choses. Hein. On peut ruminer sa colère, son amertume, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Et comment se fait-il qu'on rumine? Parce qu'est-ce qu'on fait quand on rumine quelque chose? La colère. On rumine en permanence, on se repasse en permanence, on se murmure intérieurement en permanence l'événement qui a provoqué ma colère. Et on entretient ça. Et cette colère finit par devenir nôtre. Ben, c'est le même processus. Je prendrai un texte tout à l'heure qui va dans ce sens-là. Rappelez-vous par exemple de cette parole qui revient dans l'Évangile concernant la mère de Jésus. À deux occasions, Jésus lui dit deux trucs quand même pas simples à encaisser pour une maman. Rappelez, miracle aux noces de Cana, il n'y a plus de vin. Jésus, tu t'en occuperais pas? À enseigner pour tout le rapport aux mères. Il y a des choses, mes amis, que les mamans ne donneront jamais. Il faudra le prendre. Avec beaucoup d'amour, mais il faudra le prendre. Là, il lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Autrement dit, tu vas devenir mon disciple, mais bon, maman, c'est très bien, mais behind avec les autres disciples. Et l'Évangile nous dit qu'elle repasse cette parole dans son cœur. Et puis quand Jésus, avant, quelques années plus tôt, quand il a une douzaine d'années, il se perd, ses parents le perdent pendant 3 jours, il retourne à Jérusalem, mais où est-ce qu'il est? Il le retrouve dans le temps, vous vous rappelez? Et il le gronde, quoi, mais tu ne te rends pas compte, on était morts d'inquiétude. Et Jésus, de ses 12 ans, il répond quoi? Rappelez, ne savez-vous pas, il regarde, j'imagine bien, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et l'Évangile dit quoi? Alors Joseph, il dit rien. Apparemment, à mon avis, il était mort dans un des pylônes du temple pour ne pas s'énerver. À mon avis, mais ça, c'est ma lecture. Alors moi, je suis le père. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire, le gamin, là, quoi? Je stresse depuis 3 jours. Il vient de me dire quoi? Les affaires de... Qui c'est ton père? Hein? Mais ce qui était intéressant, c'est que Marie, en tout cas, elle dit quoi, juste après? Marie, elle dit rien, mais le texte dit « Et Marie repassait cette parole dans son cœur. » Toujours dans son cœur, encore une fois, parce que c'est là que s'effectue le travail opéré par la méditation. Parce que c'est notre cœur qui doit être purifié. À d'autres endroits, ce n'est pas la bouche qui médite, justement, mais le cœur. Alors j'en ai pris qu'un, il y en a des dizaines. Ne sois pas jaloux des hommes méchants et ne désire pas être en leur compagnie, car leur cœur médite la ruine. Pense qu'à ça, il se passe ça en boucle. Et leurs lèvres ne cherchent qu'à provoquer le trouble. Ça rejoint ce que Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que vous méditez dans votre cœur, si ce n'est pas la parole, ce sera autre chose. Et ce quelque chose va finir par sortir, tôt ou tard. Donc, à l'écoute de tous ces textes, je pense qu'on peut déjà en déduire que la méditation est une activité intérieure de l'homme, parce qu'elle se situe justement au niveau du cœur. C'est une bonne nouvelle, car nous savons tous combien il est difficile de faire taire nos bruits intérieurs. Notre bouche peut se taire, mais un intérieur, parfois. Parfois, on se tait, on se dit « je vais me taire ». Oui, mais rien que de dire « oulala, je vais me taire », ça veut dire quoi? C'est que tout votre être intérieur n'a qu'une envie, c'est ne pas se taire. C'est pour ça que nous ne devons jamais nous abstenir de méditer, parce que nous sommes préoccupés par une chose ou l'autre. C'est souvent ce qu'on fait. Je vais passer du temps, c'est dans ta parole, mais j'ai tellement de problèmes dans ma tête, je ne parviens pas à me concentrer, j'arrête. Ben non. C'est par la méditation que vous allez faire taire toutes ces pensées qui ne viennent pas de Dieu et qui vous perturbent intérieurement. Car c'est dans le silence des pensées que nous pouvons entendre dans nos cœurs la parole que nous méditons. Donc la prochaine fois que nous entendrons une colombe roucouler, ne foutons pas un coup de pied dedans. Arrêtez-vous et contemplez. Vous passerez pour un fou, mais ce n'est pas grave. Parce qu'elle est seule lorsqu'elle roucoule, la colombe. Vous avez remarqué ça? Il n'y a jamais deux colombes côte à côte qui vont roucouler. C'est un exercice individuel pour les colombes. Et lorsqu'elle roucoule, elle ne fait rien d'autre. Elle ne vole pas, elle ne mange pas, parce que ça, c'est un peu difficile de roucouler avec quelque chose dans la bouche, sans doute. Mais... Et quand elle est perturbée par quelque chose, elle s'arrête automatiquement de roucouler. Je pense que c'est un très bel enseignement pour nous. D'ailleurs, pour les différentes façons de méditer, je vous recommande un ouvrage, hein, vous avez les références si vous voulez. C'est écrit par un moine orthodoxe, parce que c'est malheureusement clair que, jusqu'à présent en tout cas, ce n'est pas dans le protestantisme qu'on va trouver des bons livres sur le sujet. Voilà, je l'ai dit. C'est donc un court passage, un verset de la parole que nous sommes appelés à méditer. Vous ne pouvez pas méditer un chapitre, hein, mes amis, vous avez bien compris, ça, ce n'est pas possible, c'est trop de volume. Okay, un petit verset ou quelques versets à emporter avec vous, comme Marie qui méditait les paroles que son fils lui adressait. Vous savez, Marie aurait pu bien dire, quel petit con, et ce qu'il me dit, ça me passe au-dessus du cigare, hein, franchement. Hein? Le Seigneur, dans sa sagesse, s'est arrangé pour que je ne sois pas le papa de Jésus. Point suivant. Tout ça, je vous conseille, quand les notes seront sur le site, de le relire, parce que c'est important, et de le mettre en... Vraiment, ça va changer votre vie, hein, moi je vous le dis. Hein. Permettez à cette pensée méditée de devenir partie intégrante de votre mémoire. Ah, la mémoire. C'est pareil qu'on n'est pas égaux au niveau de la mémoire. Baliverne. Mémoriser l'écriture est un des outils les plus puissants au service de la transformation de notre intelligence. Rappelez-vous ce que disait David, je reprends le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors je vais vous donner un petit conseil, comme tous mes conseils, vous en ferez ce que vous voulez. Hein. Mémorisez les paroles de la Bible qui vous aideront dans les domaines où vous en avez le plus besoin. Il faut un peu se connaître. Hein. À force de lire l'Écriture, on commence à avoir une sorte de miroir qui s'établit entre la parole et nous. On commence à se voir pas tel que l'on se voit, mais tel que l'on est. Parfois, ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Ça fait partie du jeu et du parcours. Il faut arrêter de s'illusionner sur soi-même. Parce que tant qu'on est dans l'illusion, il n'y a rien qui change. C'est pour ça que les frangins, ils sont importants. Tu sais que tu es pénible aujourd'hui. Il faut lui dire. Parce qu'il ne sait peut-être pas. Ça s'appelle les angles morts, pour ceux qui ont une voiture. On a tous des angles morts. Moi, il y a quelques mois, un ami de 30 ans m'a dit, il y a des moments où tu me fais peur. Attends, je lui fais peur. Je ne l'ai jamais frappé. Bon, l'engueuler, ça m'est arrivé, ça c'est vrai. Enfin, et je me dis, c'est pas possible, mais c'est pas possible, j'ai faim. Et puis, à force d'en discuter avec d'autres, ça dépend les moments, quoi. Les moments, tu n'es pas vraiment accessible. On sent vraiment que ce n'est pas le moment d'aller t'embêter. Je ne peux pas, une personne qui me dit, voilà, parfois tu me fais peur, c'est une personne qui me le dit. Bon, le gars, il a un problème. Hein. Deux personnes qui me le disent, 5, 10 personnes, qui, ça va, ok, j'ai un problème, il faut que, voilà. C'est le principe. Hein. Une personne, c'est une personne. 10, vous avez un problème. Hein. Je n'ai plus ce problème depuis, puisque je médite, hein, bien sûr. Voilà. Donc, commencez par mémoriser des petits versets, un verset ou deux, qui sont en rapport avec certaines de vos problématiques personnelles. Par exemple, si vous vous battez avec la peur, beaucoup de chrétiens se battent avec les angoisses et la peur. Ah non, je vais vous lire. L'Éternel, par exemple, hein, psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? C'est vrai que c'est fou, hein. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir peur alors que Dieu est dans votre vie. Mais ça arrive quand même, et il ne faut pas le nier. Si l'orgueil est un problème, c'est un des premiers que j'ai mémorisé, moi. Si un jour j'ai fait un complexe, c'est forcément pas d'infériorité. Hein. Alors, c'était plutôt l'inverse en ce qui me concerne. Je suis honnête avec vous. Hein. De toute façon, vous savez, donc voilà. Ben oui. Donc si l'orgueil est un problème, essayez par exemple Philippiens 2:3, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais écoutez, hein. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Donc tous les matins, quand je pense à vous, je me dis, ils sont supérieurs à moi-même. Et si vous inquiétez, je suis certain que vous inquiétez, parce que votre mémoire ressemble à une passoire, ben ne vous inquiétez pas. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre de mots que vous mémorisez, mais bien ce qui se passe en vous lorsque vous immergez vos esprits dans l'écriture. Ce n'est pas un concours, quoi. Et souvenez-vous que toute discipline spirituelle, rappelez-vous, ça n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Moi, dans les îles où j'étais pasteur avant, c'était bon. Vous vous rappelez ce texte dans Psaume 35, il y avait toujours des « Oui, moi, monsieur, moi, je peux le dire. » Voilà. Des personnes qui connaissent la Bible par cœur. Hein, mais tous les versets sur l'amour, mais ils n'ont pas un échantillon sur eux. Hein. À ce propos, donc, de conserver à l'esprit que ça n'est pas une fin en soi, John Ottenberg, le pasteur de l'église presbytérienne de Menlo Park en Californie, raconte que quand il était petit garçon, ses parents étant chrétiens, il allait dans une église, il était à l'école du dimanche. Et à un moment, très inspiré, les monitrices décident, parce que ce sont souvent des femmes, d'organiser un concours de mémorisation de versets bibliques. Toutes les semaines, les gosses devaient mémoriser un verset et le réciter par cœur le dimanche d'après. Et le prix, pour celui qui en mémoriserait le plus, c'était une Bible blanche en cuir, avec leur nom, écoutez bien, leur nom à eux imprimé en lettres d'or sur la couverture. Franchement, allez. Donc ces truttes étaient en train de créer dans ces gamins et ces gamines, ces petits boubous, étaient en train de créer un sentiment de convoitise, alors que l'objectif c'était mémoriser les versets de la Bible. Vous voyez, on est quand... Il faut le faire quand même. Hein. Après un certain temps, Ottenberg, le Seigneur est bon, il a fini quand même pasteur. Hein. Ottenberg, après quelques semaines, se rend compte que sa pire ennemie, ils sont plus que deux en fait, en course, c'est lui forcément, et une certaine Louise, noire de cheveux, pleine de taches de rousseur, et portant des grosses lunettes à double foyer, je cite. Hein. À titre personnel, vu le physique de la gamine, moi je l'aurais laissé gagner. J'ai déjà un handicap, on ne va pas en rajouter, je m'efface. Mais apparemment, Berthe n'avait pas autant de compassion que moi, donc lui, il a ses dents qui poussent. Mais il se rend très vite compte que la gamine est meilleure que lui et qu'elle prend de l'avance, et c'est elle qui va gagner, et c'est elle qui aura la Bible avec son nom dessus. Et voilà ce qu'il dit. À un certain moment, je me suis demandé, je le cite, « Que pourrais-je faire à Louise ?» Et il continue, « Donc je l'ai tué. » Du moins pensé. Mais c'est déjà terrible. Hein. Il continue, « Je ne l'aimais pas. » Pas du tout. J'aurais fait n'importe quoi pour gagner cette Bible. L'église commençait à être un lieu, écoutez, hein, il est tout petit. Hein. L'église commençait à être un lieu pour moi où je pouvais briller et prouver combien j'étais intelligent. Ça fait peur quand même. Hein. Non ? Je ne me suis donc, il continue, je ne me suis donc pas réjoui lorsqu'on appela son nom pour recevoir le prix. Et ce n'est pas la seule fois où j'ai transformé l'église en lieu de concours. Mais dans sa sagesse et sa grâce, notre ami John est quand même devenu pasteur. Mémoriser la Bible, la serrer dans notre cœur, comme dit David, peut être d'une très grande aide, ça je vous le dis, hein, mais uniquement si elle sert le projet de Dieu. Ne pas pécher contre lui. C'est ça l'objectif. Si c'est autre chose que ça, arrêtez de mémoriser. Hein. Vraiment. Si vous étiez abandonné sur une île déserte, quel livre emporteriez-vous avec vous? Ça, c'est une question bateau qu'on a posé à plein de gens et beaucoup. Alors, quand on pose ça à un chrétien, qu'est-ce qu'il répond? Ah, mais la Bible, bien sûr. Ben oui, ça, il va vous dire autrement. Hein. Il ne va pas dire le rouge et le noir de Stendhal. Quoi. Ça, on va penser que je ne suis pas assez spirituel. Et en fait, ce qui est comique, c'est qu'on a posé cette même question à G.K. Chesterton, qui est un immense écrivain chrétien anglais du 19e. On lui a posé cette question. Et forcément, on s'attend à ce qu'il ait répondu, la Bible. Eh bien, pas du tout. Il a dit, si je suis sur une île déserte, j'emporte avec moi le guide pratique de construction de bateau de Thomas, qui est encore sur Internet. Hein. Donc, si un jour vous êtes parachuté sur une île déserte, il a répondu, j'emporte ce guide pour pouvoir construire un bateau. Et ça a du sens, hein, mes amis. Si vous êtes piégé sur une île, la seule chose dont vous avez besoin, c'est un livre qui vous aide à rentrer à la maison. Dans de telles circonstances, je pense qu'aucun d'entre nous ne voudrions un livre pour nous divertir ou nous informer. Ça n'aurait aucun intérêt. Nous désirerions un livre qui nous montrerait comment être sauvés de notre situation. Bien, la Bible est ce livre donné par Dieu à l'humanité, parce que tous les hommes sont perdus sur leur île, ne sachant ni qui ils sont, ni qui est Dieu, et ayant besoin, de revenir de toute urgence à la maison. C'est pour cette raison, et cette raison uniquement, j'ai envie de dire, qu'historiquement, les disciples de Jésus ont toujours recherché à être un peuple consacré à la parole de Dieu, parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin d'être transformés. N'oublions donc pas que le secret de la vie, ça je remonte au premier message, le secret de la vie, c'est de rechercher une seule chose, que la pureté du cœur, c'est de vouloir une seule chose. Vous savez comme moi que des milliers de mots jaillissent de nos télévisions, de nos smartphones, des journaux télévisés, des talk-shows, des émissions politiques, surtout pour l'instant, que tout cela nous bombarde et nous pousse dans des milliers de directions différentes. Mais la parole que Dieu prononce et qu'il tire de sa parole peut renouveler notre intelligence et purifier notre cœur. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Comme l'a dit saint Augustin, Dieu dit encore à chacun d'entre nous aujourd'hui, il l'a dit à saint Augustin, il le dit tous les jours, il nous le dit à nous, ses enfants, prends et lis, et je rajouterai, prends et médite, tu en as vraiment besoin. Amen.